les ondes buissonnières. Oui. Diffusion sauvage.
Les ondes sauvages diffusent.
Non.
Diffusion sonore pour oreilles encrassées.
Non.
Diffusion sauvage pour des oreilles apprivoisées.
Non.
Les ondes buissonnières, diffusion sauvage de sonorités apprivoisées.
Yes.
Chers auditrices et auditeurs de Radio Saint-Fé, bonjour, vous êtes bien dans les ondes buissonnières. Aujourd'hui, nous vous proposons d'écouter une interview en deux épisodes. Le premier épisode s'appelle « Tara part en thèse », qui est un état des lieux sonores d'une thèse en architecture, la production de l'habitat populaire à Sao Paulo. Cette interview a été réalisée par Laure Bonhem, une animatrice bénévole à Radio Saint-Fé. Depuis 2019, Tara suit un chantier porté par une coopérative de travail avec le soutien d'une agence d'architecture en plein centre de Sao Paulo. Tara cherche à écrire collectivement la mémoire de ce chantier avec une analyse des enjeux de domination de racisme ou encore des partages de savoir. C'est l'occasion pour elle de descendre de son piédestal de métier d'architecte qui peut invisibiliser de nombreuses pratiques comme l'autoconstruction. Il y a également tous les à côté de sa thèse, sa vie à Sao Paulo, être universitaire blanche, ajuster sa posture, envoyer valser le prestige de la fabrique du savoir. À l'heure où l'émission est enregistrée, Tara, notre chercheuse activiste, est entre deux allers-retours au Brésil pour sa thèse. Un épisode 2 est en construction, à son retour au mois de mai. Nous vous proposons donc l'épisode 1, Tara part en thèse. C'est quoi ton sujet de thèse ? Bonne écoute à toutes et à tous.
Alors, bonjour à toutes et à tous, chers auditeurices. Nous voici dans les studios de Radio Saint-Fé à Cré. Nous n'avons pas encore défini clairement la forme, l'angle ou la teneur de ce qu'il va suivre, mais ce qui est certain, c'est l'envie commune d'interroger et d'enregistrer. Il s'agira ici de capturer une des facettes de la réalité de Tara, celle qui la relie au Brésil. Tara a 28 ans. Tara est originaire de Sou. Tara est une chercheuse activiste. Bonjour Tara.
Bonjour.
Elle est en thèse depuis début 2019 à l'école d'architecture de Lyon. Je résumerai ça autour de l'habitat populaire au Brésil, ou plutôt à Sao Paulo. Elle a été pendant un an en Erasmus à Sao Paulo. Elle y a passé 2 fois 6 mois, puis elle y repart encore 3 fois cette année. Elle y était le mois dernier et elle y repart dans quelques jours. Donc on peut la capturer entre ces deux allers-retours. Et du coup, Tara fait partie un peu de notre paysage sororal. En fait, on a envie de la questionner un peu plus sur qu'est-ce qu'elle fait, c'est quoi sa thèse. Et donc là, en studio, il y a plusieurs personnes pour venir l'interroger. C'est un peu une team de coin-coin.
Bonjour.
Alors, nous avons des coin-coin qui se prénomment...
Roberta et Suzy.
Est-ce que Suzy, tu peux nous dire pourquoi on s'appelle la team des coin-coin ?
Plus exactement, les coin-coin du bureau, puisqu'apparemment, un grand outil pour réussir sa thèse, à le savoir, Tara, c'est très important, c'est d'avoir toujours un petit canard en plastique sur ton bureau à qui parler quand t'es bloqué. Et on s'est dit que c'était chouette de rendre les canards en plastique vivants, aujourd'hui, vivantes.
Donc nous sommes plusieurs coin-coin autour de Tara, parce que c'est vrai, la fameuse question... Et alors, ton sujet de thèse, c'est quoi ? On a l'impression qu'on va partir en grande conversation. Et du coup, là, on s'est dit, mais ce sujet est vraiment passionnant. On a envie d'en savoir plus. Et du coup, on l'enregistre pour vous le faire écouter, chers auditeurs. N'est-ce pas sympathique ? Et du coup, Tara, tu as une sélection musicale assez chouette. Parce que pour toi, raconter le Brésil passe aussi beaucoup par sa musique. Tu peux nous dire un peu 2 mots là-dessus ?
Oui. je dirais que aussi... Ça a été, moi, un moyen aussi d'apprendre le portugais, avant tout, d'écouter, de chanter. Et en même temps, je pense que, en tout cas, la place de la musique, du coup, qu'ils appellent musique populaire au Brésil, et aussi notamment la place du rap, elle est quand même assez signifiante dans ce qu'elle traduit et dénonce. Du coup, il y a une petite sélection aussi pour se faire plaisir aux oreilles.
On en écoute une.
Allez. C'est une musique de capoeira, du coup. On appelle l'ovação. Du coup, c'est souvent celle qui introduisent à la rode. Et celle-ci, du coup, elle s'intitule Dona Isabel. Et elle a été écrite et produite par Mestre João Pequeno. Enfin, une autre narration possible de l'histoire impériale au Brésil et de l'abolition de l'esclavage. Voilà.
Dona Isabel,
história é essa? Oh, Isabel, que história é essa? De ter feito a abolição, de ser princesa boazinha, que acabou com a escravidão. Estou cansado de conversa, estou cansado de ilusão. Abolição se fez com sangue que não dava esse país, que o negro transformou em luta. Cansado de ser infeliz, abolição se fez bem antes, ainda por se fazer agora. Uma verdade das favelas, Dona Isabel não vai me tirar da escola. Ô Isabel, chegou a hora de se acabar com essa maldade e de ensinar pra nossos filhos, ô Isabel, o quanto custa a liberdade. Viva Zumbi, nosso guerreiro, que fez heróis lá em Palmares. Viva a cultura desse povo, a liberdade verdadeira, que já corria nos quilombos, Dona Isabel que já jogava capoeira. Camaradinha, que vai fazer?
Ok, alors Tarama, direct, j'ai envie de te poser la question ultra tabou que personne ose demander aux gens qui sont en thèse et que j'ai pas osé te demander pendant des mois. C'est quoi ton sujet de thèse ?
Je vais essayer de poser ça simplement. Donc moi, j'ai fait des études en architecture, je suis architecte et je me suis intéressée à, notamment en faisant cet Erasmus au Brésil, et ben, aux questions liées à la production de l'habitat populaire au Brésil. Donc ça regroupe beaucoup de dynamiques à la fois informelles, illégales et plus officielles comme des programmes d'habitation. Et moi plus précisément je me suis intéressée à un dispositif que j'ai nommé dispositif mais qui fait appel à l'autogestion du coup pour produire de l'habitat populaire. Et du coup, c'est un dispositif qui a été institutionnalisé un peu plus tard, mais qui est né de pratiques expérimentales et du coup, notamment avec l'appui d'architectes urbanistes et aussi, du coup, plus précisément à Sao Paulo, du coup, d'un appui, un fonds municipal qui avait été mis à disposition, du coup, de communautés. Et du coup, il y a eu beaucoup de mouvements dans ce qu'on appellerait pas des quartiers, mais voilà, des communautés qui, du coup, ont joint leurs forces et ont construit collectivement leur habitat. Et petit à petit, il y a eu un encadrement professionnel, notamment par des architectes, pour justement éviter des cas, on va dire, d'insalubrité. Voilà, et donc moi, mon sujet, il s'intéresse à ce dispositif et notamment, du coup, au rôle que joue, du coup, l'équipe d'appui technique, qu'en portugais, on appelle assessoria técnica. Et du coup, le principe de l'assessoria, c'est justement de ne pas venir en aide, mais d'apporter un appui. Donc c'est des questions de mots, mais en fait, ça fait des grosses différences dans la pratique. Donc moi, je suis rentrée sur le terrain par une agence qui s'appelle Usina et qui, du coup, depuis la fin des années 80, se mobilise et du coup aussi porte notamment politiquement cette possibilité de s'associer du coup et de façon plus horizontale à des mouvements. Et moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est de nombreuses choses. Notamment à la fois d'un point de vue purement professionnel, je dirais, c'est remettre en question un peu toute cette, ce que moi j'ai appelé la fiction de l'architecte, mais toute cette intention qu'on a de projeter les espaces des autres, de les dessiner, et du coup c'est une façon très autoritaire en fait d'agir, et en même temps face à du coup aussi quand même... on va dire une offre de logement accessible très réduite au Brésil, quasi inexistante. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de voir aussi comment, du coup, une approche, en tout cas une pratique plus expérimentale et aussi qui a beaucoup de contradictions dans sa pratique même, qu'est-ce qu'elle vient questionner, notamment l'autonomie politique possible dans ces pratiques-là. L'enjeu, il est à la fois de venir questionner la pratique au sens de la construction, réellement. Est-ce qu'il y a réellement un apprentissage collectif, que ce soit même juste le processus décisionnel avant même de construire ensemble. Et justement, comment du coup, tout ce relationnel de travail, comment il s'articule, et avec notamment des grosses grilles de lecture sur les questions liées au pouvoir et au racisme. Voilà, et du coup, plus précisément, peut-être pour du concret, moi je me suis intéressée du coup, à un chantier en particulier qui regroupe, qui est porté par une coopérative de travail de ce qu'on appellerait au Brésil des catadores. Et du coup, c'est des gens qui recyclent, qui ramassent, récoltent des matériaux recyclables dans les rues, que ce soit des canettes, du plastique, du papier. Du métal, et en général c'est une pratique un peu informelle qui est de subsistance des personnes qui habitent dans la rue, et en général ils ont des revendeurs et qui rachètent, voilà. Et du coup là c'est des coopératives de travail donc qui ont joint leurs forces et qui ont notamment essayé de valoriser ce travail qui est très invisible même s'il est omniprésent. Et du coup moi j'étudie leur chantier, enfin leur projet d'habitation qui s'appelle Novo Horizonte, Nouveaux Horizons. Très vendeur. Et du coup, c'est un projet d'habitation qui a débuté en 2008. Enfin, les premiers financements ont été du coup accordés à ce moment-là. Et il est toujours en cours. Et notamment parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes liés à la gestion, en fait, que ce soit du côté bureaucratique, du coup des institutions, ou même en fait de qu'est-ce que c'est gérer un énorme... c'est énorme, c'est un logement d'habitation où il y a plus de 60 unités d'habitation. Donc en fait, c'est gérer ça déjà collectivement, mais du coup aussi c'est gérer financièrement la valeur de cet habitat. Et en fait, c'est énorme, et du coup, c'est... Voilà, comment collectivement on arrive à gérer ce fonds-là. Et aussi, y a toute la pression du marché, l'inflation dans le marché de la construction au Brésil... ça va très vite. En fait, Sao Paulo, c'est 20 millions d'habitants. Enfin, souvent, on se dit périph, du coup, des personnes qui habitent en périphérie. Et en fait, c'est une vraie identité aussi qui est revendiquée. Et là aussi, et pourquoi ? Parce qu'en fait, on va dire qu'il y a une concentration énorme dans le centre urbain, à la fois de... c'est une ville de travailleurs et de travailleuses, Sao Paulo. Et ce qui fait que... Quand on cherche du travail, en fait, on est notamment amené à aller dans le centre. Et en fait, du coup, il y a énormément de valorisation foncière, en fait. Et ce qui fait que ce projet-là aussi est situé dans le centre, hyper-centre de Sao Paulo. Donc, à côté de ça, il y a des tours de 20 étages qui se construisent. Donc, c'est aussi situé ce projet-là, qui est tout petit, mais qui exprime beaucoup de choses, pour moi, en tout cas.
Et comment tu les as rencontrés ? Comment t'es tombée sur ce chantier ?
Eh bien, ce projet, du coup, moi, avec l'agence avec qui mon premier séjour sur le terrain, j'ai passé plus de temps, du coup, j'avais déjà passé du temps, mais avec cette agence d'archi, Usina, du coup, et eux, à ce moment-là, en 2017, en fait, il y a eu une demande du mouvement qui vienne, du coup, finaliser le chantier, qui avait été mis à l'arrêt depuis quasiment 4 ans. Et eux, ils ont été sollicités pour finir, gérer une des missions de l'architecte, c'est de la gestion et de la coordination de travaux. Mais du coup, les équipes d'appui technique qui sont spécialisées dans l'appui aux mouvements sociaux, en général, elles font cet aller-retour entre la bureaucratie, du coup, faire des demandes de permis, faire avancer des choses très concrètes, mais en même temps, elle mobilise aussi, du coup, les forces. Et moi, en fait, petit à petit, ça a été une demande de ma part, plutôt, de pouvoir intégrer ce projet-là en particulier. Mais notamment parce que c'était pas une coopérative de logement, et c'était une coopérative de travail. Donc ça, voilà, petite nuance, parce qu'en fait, ils ont plutôt l'habitude de travailler avec des mouvements sociaux très organisés, à une échelle énorme. Et là, en fait, c'est une petite coopérative, donc... ça n'a pas le même poids, un poids politique notamment. Voilà, donc je les ai rencontrés en 2017 de loin, et là vraiment c'est depuis le mois dernier en fait, depuis en février là, que j'ai pu vraiment me présenter comme chercheuse et aussi avec mes intentions de travail, voilà, avec eux.
Et du coup, te présenter, tu arrives à rencontrer un peu tous les interlocuteurs de ce projet, que ce soit les travailleurs, les architectes, les gens qui donnent les subventions Et comment justement dans ta posture un peu de thésarde, tu arrives à ces rencontres. Je sais que tu parles couramment portugais, déjà, je pense que ça aide. Et voilà, et comment c'est reçu dans ta posture d'arriver en tant qu'universitaire française dans les quartiers de travailleurs de Sao Paulo.
Oui, on peut aussi peut-être préciser que je suis blanche. C'est quand même pas rien. C'est long, c'est justement là où c'est chouette. Enfin, moi, j'ai trouvé que c'était justement dans ces rencontres. Et du coup, depuis longtemps, en fait, j'ai voulu quand même pas mal dans ce milieu de chercheurs, architectes, aussi investis dans des instances politiques, du coup, sur les questions liées au logement. Mais là, c'est la première fois où vraiment je rencontrais des personnes, et sur un temps plus long aussi, qui étaient, du coup, les bénéficiaires de ces projets. Et... ça a été assez fastidieux parce que déjà, du coup, moi, j'ai fait le choix de rentrer par cette agence d'archi. Donc, en fait, ça représente déjà beaucoup de choses quand c'est des personnes qui ont généralement même pas une éducation de base. C'est des gens qui vivent très, très... on pourrait reparler de ce mot précarité, mais c'est des personnes, en général, qui travaillent de façon journalière pour se payer, pour manger. Enfin, c'est pas... elles ont pas des emplois à plein temps. Et donc, moi, j'ai pris... j'ai accepté ce qui allait jouer, notamment par rapport aux archives, du coup, où est-ce qu'ils allaient me situer. Et moi, j'étais clairement vue comme la stagiaire au début. Parce qu'en fait, ça a été discuté en amont, mais c'était dur de m'introduire comme chercheuse, parce qu'en fait, c'est aussi une mise en danger de leur quotidien. Enfin, à la fois du travail entre les archives et les mouvements, qui déjà peut être très conflictuel, mais aussi... moi, en tant que... qu'est-ce que je représente, universitaire, mais surtout extérieure, même pas brésilienne. Donc ça a été très délicat, mais c'était chouette parce que aussi, moi, ça m'a permis de justement être un peu plus franche sur... de mettre toutes les cartes sur la table et de dire, moi, il y a énormément de contradictions dans mes choix, mais j'ai du temps, en fait. J'ai du temps et eux, ils n'ont pas le temps, en fait, de pouvoir... moi, l'intention... Oui, c'est vrai que j'ai peut-être pour... l'idée, c'était qu'on écrive collectivement cette mémoire du chantier. Du coup, depuis la perspective des travailleurs, travailleuses. Et en fait, il n'y a personne qui a le temps de faire ça. Enfin, entre leur vie, qui sont très fragmentées. Et justement, l'histoire du chantier, elle est là, elle est orale, mais en fait, elle n'a jamais été collectée. Donc, c'est un peu moi ce que je leur propose. Et ça, en tout cas, c'est l'échange sur lequel on se base.
A priori, ta thèse, elle ne va pas juste finir dans une bibliothèque
non.
de poussière et juste accessible à des vieux et vieilles universitaires.
Non, c'est le but. Justement, c'est aussi pour ça qu'on est à la radio.
Parce que du coup, elle est destinée à qui ta thèse ?
C'est une bonne question. Non, c'est pas une bonne. J'ai des réponses. En tout cas,
ça tombe bien.
Je suis là pour. Non, avant tout, pour moi, elle s'adresse aux praticiens, praticiennes, et ça regroupe à la fois du coup les personnes qui vont bénéficier de ce logement, qui ont été dans ces processus-là, et mais autant les architectes qui ont de belles idées. Mais qui aussi sont souvent prises dans la pratique et qui n'ont pas non plus, en fait, c'est un peu moche, mais c'est un peu idée, je sais que ce mot est plus courant, mais de capitaliser une expérience, en fait, c'est ce qui fait que je m'adresse avant tout à eux aussi pour qu'ils aient un retour sur la pratique. Et aussi actualiser un peu ce que peut être l'autonomie politique pratiquée dans ce processus-là. Enfin, en tout cas, moi, je ne m'adresse pas aux architectes en France, par exemple, clairement pas. Plutôt, en fait, à des gens qui s'intéressent à qu'est-ce que c'est, en fait, faire collectif, et notamment quand il y a de la lutte et quand ils n'ont pas le choix, en fait. Donc, je me dis, c'est des expériences à partager pour tout le monde.
Et là-dessus, est-ce que tu peux, sur le fond de ta thèse, est-ce que tu peux nous raconter un peu, justement, comment ils font collectif, qu'est-ce que tu as appris, toi, comment ils s'organisent, en fait ? Parce que moi, pour vulgariser un peu ce que j'ai compris, du coup, c'est que c'est des travailleurs qui se sont regroupés ensemble, j'imagine, en famille, pour avoir un meilleur logement et pour construire ensemble leur logement collectif en autogestion, mais en faisant appel à une boîte d'architectes qui les aide à penser le projet et en demandant des subventions de la ville.
Au Brésil, par exemple, la plupart des personnes soit sont propriétaires, soit vivent du coup de locataires, où sont locataires. Mais en fait, l'accès à la propriété, c'est un gros enjeu quand même. Enfin, c'est pas du tout un pays où la question de la propriété collective est envisageable. Mais ça, c'est l'histoire coloniale qui a bien marqué le pays, mais comme tous les pays d'Amérique latine. Du coup, dans mon cas particulier, sur ce chantier, il y a eu un programme carrément à l'échelle nationale qui a été mis en place pour justement répondre aux catadores, du coup, aux recycleurs, enfin collecteurs de matériaux recyclables. Pour justement les appuyer dans l'accès au logement. En fait, c'est des personnes qui étaient plutôt qui habitaient la rue. Et du coup, ils sont rentrés dans ce programme. Il y a eu plusieurs... je crois qu'il y a eu 6000 unités d'habitation distribuées au Brésil, ce qui est assez peu, mais c'était un des premiers programmes de logement collectif. Et ce qui fait que, en fait, il y a beaucoup de conditions, et ce qui fait que déjà, il faut s'organiser pour pouvoir répondre à cet appel. Et en général, il faut s'organiser avec une agence d'archi pour déjà proposer un projet, en fait, et avoir aussi choisir un terrain, du coup, mais le terrain, voilà, eux, ils ont bénéficié de ce terrain de la ville, ça a été un don. Enfin, un don. Ils ne seront jamais propriétaires, ils seront juste. Ils en auront l'usufruit à la fin de la construction. Et après ça, du coup, ils ont eu un premier du coup, budget, mais sauf que, du coup, eux, dans leur processus collectif, justement, c'était une coopérative qui était montée pour le travail. Du coup, une activité très précise. Et ce qui fait que, bah, dans le cas de construire un logement, en fait, c'est des. En général, pourquoi il y a une équipe d'appui technique, en fait, c'est que c'est une échelle qui est souvent assez démesurée, enfin, de réflexion, quoi, de coordination. Mais sinon, au quotidien, ça se passe sur le chantier, en fait. Et du coup, la spécificité, moi, de ces chantiers aussi, c'est que du coup, il y a une partie qui est faite en. C'est du travail non rémunéré, du coup, mutilant, qui serait de l'entraide, en fait. Enfin, souvent, toutes les maisons sont construites par entraide. Mais là, du coup, il y a une. C'est souvent les fins de semaine, du coup, les week-ends, où du coup, les familles sont appelées, ou des membres extérieurs à la famille. Enfin, en tout cas, il faut toujours qu'il y ait des personnes représentées des familles qui viennent, du coup, participer à la construction. Et là où, du coup, c'est encadré par les architectes. Et par aussi la coordination, mais... Et en général, bah, du coup, aussi, dans mon cas, il y a une assistante sociale. Enfin, il y a des assistantes sociales qui tournent autour, mais du coup, là, pour plus faire un suivi rapproché des familles. Et collectivement, les apprentissages, bah, c'est un peu moi aussi ce qui me titille. Enfin, ce que je disais, c'est que je suis encore assez extérieure, quand même, au chantier. Mais globalement, ce qui est compliqué, c'est que... Vu que c'est un objet, enfin la construction en telle, c'est un objet qui est, c'est dur de se projeter en fait et de s'approprier ce que c'est, enfin que ce soit des plans, même voilà des corps de métier, ce qui fait qu'il y a quand même un gros truc où le pouvoir il est très concentré par les archis qui vont en fait beaucoup être dans la proposition, mais aussi quand même dans une forme de dictée ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et du coup moi je pense que la dimension à l'apprentissage collectif, il se fait encore à une autre échelle, mais que, du coup, à laquelle je n'ai pas eu encore trop accès. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir les apprentissages, on va dire, mais de chaque sujet, quoi, en tant que et personne, justement, qui n'est pas forcément formée à la construction, ni qui a fait des études. Donc, je dirais que le collectif, pour moi, il est encore... Enfin, voilà, je situe ces magmas et comment ils s'entrecroisent, mais dans le relationnel même, moi, c'est ce que je viens questionner. Et en fait, là, je suis un peu au début de pouvoir vraiment demander ça, enfin, parce que c'est quand même assez tendu. Donc,
Mais ce qui fait qu'il y a une séparation entre tout ce qui est théorique et technique, c'est les archis et la coordination, et les personnes qui ont les marteaux, les pioches et les bétonnières, ce sont les travailleurs et travailleuses qui vont habiter après dedans.
Dans le vocabulaire marxiste, ce serait la force de travail, mais en fait, il y a aussi des travailleurs du bâtiment qui sont qualifiés. Donc, il y a quand même beaucoup d'étapes de la construction, genre couler des dalles, en fait, où les personnes, enfin, les familles ne peuvent pas participer. Donc, elles vont souvent faire des travaux de nettoyage ou de déblé. Enfin, c'est des travaux très fatigants, en général, les familles. Et pour justement un peu faire des économies, en fait. Globalement, c'est pour faire des économies sur une main-d'œuvre qu'on ne peut pas payer. Juste tout ce qui est. Mise à l'égout, des choses hyper nécessaires et basiques pour qu'un immeuble collectif fonctionne. Bah là, ils sont en train de le faire en chantier collectif. Du coup, c'est les familles qui font en fait de la plomberie, quoi. Parce qu'en fait, parce que ça a été, enfin, il y a eu tellement une inflation du marché qu'en fait, on ne peut
plus.
Et déjà, les matériaux sont chers, donc en fait, la main d'œuvre, on la trouve là où on peut, quoi.
Est-ce que tu nous choisirais pas une petite musique, une immersion un peu...
Pour nous détendre.
Histoire d'absorber toute cette masse d'informations.
Et bien alors, je vais mettre mon titre chouchou.
Creole.
Donc là, il s'appelle Casa de Papel. Et du coup, c'est Maison de Papier. Et Criollo, c'est un grand maître de la musique au Brésil.
Olhos nos olhos, sem dar sermão, nada na boca e no coração, seus amigos são um
cachimbo e um cão, casa de papelão. Olhos nos olhos, preste atenção. Olha a ocupação. Só ficou você, só restou você. Uivo um louco, sangue em choro, pra agradar a opressão.
Bon, alors moi, Tara, j'aimerais savoir une grande question de pourquoi, tu fais une thèse, pourquoi tu t'intéresses au Brésil.
La première fois que je suis rentrée du Brésil, j'étais très en colère, très en colère. Je suis rentrée, du coup j'ai fini ma dernière année d'archi où tu présentes un projet de fin d'études. Et je crois qu'il y a eu une grosse colère qui était notamment sur le fait qu'on ne m'avait pas encore poussé pendant 4 ans d'archi à m'interroger sur l'habitat populaire. Et pourquoi populaire, en fait, c'est notamment... Enfin, tout le monde devrait pouvoir se loger à minima, avoir accès au logement. Et donc pour moi, il y avait un peu une urgence. En tout cas, bon déjà, je n'avais pas du tout l'intention d'aller travailler dans une agence classique. Mais peut-être plutôt, j'aurais pu aller travailler pour le public, par exemple. Et en fait, je me suis dit, mais non, parce qu'en fait, l'enseignement même de ce qu'on revendique comme étant la profession d'architecte, en fait, elle invisibilise plein de pratiques. Et du coup, notamment tout ce qui peut être nommé comme de l'autoconstruction. Et en fait, c'est le fait que c'est aussi criminalisé ou, à l'inverse, hyper fantasmé, en fait, ce que peut être de se loger seul... de construire son propre logement. Bah, le Brésil, je crois que ça m'a fait une grosse claque dans la gueule. Sao Paulo, en fait, c'est la majorité du parc constructif. En fait, il est autoconstruit quasiment. Et c'est une masse de travailleurs, travailleuses qui, voilà, c'est les petites mains du pays, quoi. Du coup, j'ai pas pu faire non plus de parallèle en France parce que voilà, on disait ça un peu, mais peut-être qu'il peut s'apparenter, on va dire, en France, ça a été le mouvement des castors, du coup, qui a été des mouvements d'autoconstruction. Sinon, on disait que voilà, ça peut pas être aussi rapporté à de l'habitat participatif pour plein de raisons, mais du coup, au Brésil, j'ai eu l'impression qu'il y avait la possibilité de venir questionner qu'est-ce que c'est en fait le logement. Quand ce n'est pas institutionnalisé, quand c'est pas le service public qui le propose, ni quand c'est des collectifs de propriétaires, notamment parce que en fait, j'avais envie aussi de peut-être péter un peu l'imaginaire et aussi de venir poser des questions. Et je sais pas, mais j'ai un peu cet imaginaire catastrophe en me disant, en fait, nous on peut hyper bien réguler nos frontières, mais en fait. Ça se trouve, dans 30 ans, 40 ans, en fait, on aura des mégalopoles de la taille de Sao Paulo. Et en fait, la question du logement, elle est essentielle, de l'infrastructure en général, que ce soit l'eau, l'électricité, les égouts. Et je crois que moi, dans ce scénario catastrophe, je me suis dit, on n'est pas prêt en France. Il n'y a personne. Ou alors, on fantasme l'Afrique. J'en dis un peu quand même, là.
Et quand tu parles de faire péter les imaginaires, tu parles aussi notamment de l'imaginaire qu'on a des favelas, en fait.
Alors pour le coup, oui, c'est une réalité. Mais quand je parle de fantasme, c'est tout l'idéal qu'il y a de l'autonomie, en fait, justement. Mais en fait, dans l'imaginaire de l'architecture, il y a toujours eu ce truc de cette ville tentaculaire, proliférante, et du coup l'imaginaire de la favela, en fait c'est ça, c'est quelque chose qui n'a jamais de fin, enfin en fait et qui est hyper mouvant, sauf qu'en fait c'est hyper contradictoire avec ce que c'est de produire de l'architecture, parce qu'en fait nous au contraire on travaille avec des trucs très finis, qui doivent fonctionner comme des entités. Donc quand je parle d'imaginaire, c'est aussi, je pense peut-être à la fois celui qui est plus commun de n'importe qui entend parler du Brésil autant que le carnaval, voilà, et la samba, mais moi c'est aussi beaucoup l'imaginaire fantasmé des architectes, de se dire en fait c'est ce truc très positif de l'autoconstruction, alors qu'en fait c'est fait parce que les gens n'ont pas le choix, et en fait c'est plutôt très violent en fait ce qui se passe et ce qu'ils vivent. Donc moi je crois qu'il y a cette envie de remettre des choses très concrètes et matérielles. Et justement, arrêter de fantasmer en fait l'autoconstruction, parce que et pas que je la criminalise justement, peut-être essayer de la nuancer quoi, plus.
Et dans le concret justement, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, que les gens ne vont pas devenir propriétaires, c'est ça, mais usufruitier.
Bien placé.
Est-ce que l'usufruitier... Enfin non, mais par rapport à l'autonomie, justement, ça me questionne. Et c'est qui va être propriétaire? Enfin, comment ça fonctionne, ça voilà. Est-ce que...
Alors, la petite nuance, c'est que du coup, le terrain, on va dire le foncier, va toujours appartenir du coup à l'État. Mais il y a un droit d'usage, du coup. Et pour l'instant, c'est un droit d'usage qui est alloué pendant 5 ans et qui est répété, du coup, tant que la construction ne sera pas... fini. Il y aura après il y aura un droit d'usage mais qui sera permanent, et en fait le bâti lui par contre ce sera la propriété de la coopérative, enfin
la coopérative de travailleurs.
Voilà. Okay. Sauf que chaque unité d'habitation est elle la propriété d'une famille.
Et peut se transmettre après de famille en famille, de génération en génération.
Et beaucoup ce qui se dit par exemple c'est en fait la plupart des personnes elles veulent sortir d'être locataire en fait. C'est une vraie condition qui est vue comme étant hyper restrictive et hyper lourde, parce qu'en fait les charges, parce que aussi il n'y a aucune régulation du marché de la location au Brésil, ce qui fait que c'est aussi cet idéal fantasmé de la propriété, c'est justement pour sortir d'une dépendance totale aux propriétaires.
Elles habitent où en attendant ces personnes-là?
C'est très divers. Donc, ouais, alors, il y a plein de formats, mais en général, c'est des parcours où il y a quand même beaucoup de situations différentes. Mmh. Mais par exemple, un autre type d'habitat, ce serait les cochises. Du coup, c'est plutôt de l'habitat très dense, en gros, plutôt situé dans le centre de Sao Paulo, où en gros, les gens, ils ont quelques mètres carrés pour des familles entières. C'est souvent beaucoup lié, du coup, à toute la mafia. Donc, beaucoup de violence aussi qui rentre dans l'espace intime. Sinon, il y a aussi les occupations. Ça a beaucoup marqué l'histoire de Sao Paulo. C'est qu'il y a beaucoup d'immeubles qui ont été laissés vacants dans le centre. Et il y a eu des stratégies collectives, des fois, 500 familles qui rentrent et qui occupent un immeuble. Et du coup, après, ça ouvre un squat. Mais du coup, il y en a plein dans le centre de Sao Paulo. Et donc, il y en a beaucoup qui sont dans ces situations-là. Ou sinon, des occupations de terrain, juste, qui du coup, ne sont pas nommées encore favelas. Mais là, c'est juste pour faire pression. Du coup, il y a souvent des cabanes. Enfin, je ne sais pas comment appeler ça en français. Peut-être pas des cabanes, mais oui, des cabanes. Des constructions très temporaires qui sont là plus pour de l'occupation. Sinon, il y a aussi des personnes qui vivent en périphérie, dans du logement... public aussi, mais du coup qui sont propriétaires, ça arrive aussi qu'elles ont pu être bénéficiaires aussi d'autres formes de logements.
Et c'est parce que là tu nous parles d'occupation ou de squat justement, et je sais quand t'es rentrée tu nous disais qu'il y avait plus de 60 000 ou je sais plus combien de gens à la rue, l'équivalent de la ville de Valence à Sao Paulo. Et du coup justement les autorités, enfin c'est des logements interdits avec des expulsions, tout ça comme chez nous, ou du coup il y a une tolérance vu la situation à... Parce que c'est aussi une autre forme d'autonomie.
D'habiter dans la rue
que... de squatter justement des immeubles Enfin, comment ça se passe avec l'autorité
Non, il y a un gros rapport de force. Ça reste illégal. Après, il y a des occupations qui se pérennisent des fois. Mais ça reste quand même une grosse négociation avec les propriétaires. Donc ça passe souvent par la mairie, quoi, enfin par la préfecture. Et sinon, tu as justement des assessors, il y a aussi du coup des appuis qui sont là, sont institutionnels, politiques, qui font un peu de la... je sais pas comment on peut appeler ça, mais...
la médiation.
De la médiation entre les mouvements et du coup les propriétaires. Mais ce qui est compliqué, c'est qu'il y a quand même un droit de regard et très fort de la préfecture, et qui souvent s'autorise du coup à expulser à n'importe quand, sans délai, parce que justement, elle est dans ce terrain un peu flou de... Oui, que ça répond quand même à des urgences... Mais donc c'est toléré à certains endroits, mais c'est quand même plutôt un gros moyen de pression. Ils peuvent aussi, souvent il y a des opérations de force qui délogent.
Ce qui empêche du coup de s'installer et de faire vraiment des travaux dedans. Enfin, quand tu peux te faire expulser n'importe quand, c'est pas comme dans le projet que tu suis, où tu peux vraiment construire, quoi.
Non, et puis souvent c'est des immeubles insalubres. Il y a des gros problèmes. Il y a un immeuble dans le centre de Sao Paulo qui a pris feu il y a quelques années, et justement il y a une famille qui est décédée aussi de la coopérative avec laquelle je travaille. Donc ils ont quand même plein d'histoires un peu bah ouais, de morts liées. Enfin moi j'ai voilà, j'ai des récits. C'est dur de les redire là, mais de personnes qui vivent les grosses pluies à Sao Paulo. Ça vient chez eux. Ça, il y a souvent des occupations, enfin des lieux occupés dans Sao Paulo. C'est très accidenté comme ville et en fait souvent c'est des lieux à risque, que ce soit en bord de rivière, enfin de fleuve, ou justement dans des affaissements de terrain. Enfin, ça arrive souvent que du coup, moi je connais des histoires voilà comme ça, de personnes qui ont perdu leur maison.
Et ça, juste, je change un peu de sujet, mais ça regroupe combien de personnes du coup là, le projet d'habitation?
63 familles.
Il y a quelque chose qui est sorti de terre là un peu quand même.
Oui, oui. Ah, ça fait quelques années qu'il y a deux gros bâtiments qui sont sortis de terre, mais du coup il y a toutes encore du gros œuvre, mais qui n'est pas fini. En fait, il a été mal exécuté, on va dire. Voilà. Parce que c'est un projet d'habitat social. Il était très mal exécuté parce que, du coup, justement, il y a eu. On ne sait pas trop s'il y a eu. Si c'était une négligence politique ou une volonté politique, mais au-delà de ça, il y a aussi les techniciens, architectes qui ont fait de la merde. Et en plus, à côté de ça, aussi, quand tu n'as pas l'argent de payer une main-d'œuvre qualifiée de qualité, et en fait, tu vas payer des travailleurs journaliers. Donc en fait, il y a beaucoup de... Il est en péril, en fait, déjà. Il n'est même pas fini qu'il est en péril, en fait.
Et toi, c'est quelque chose que tu as envie de dénoncer, en tout cas Non, parce que je me demandais... à la fois, tu peux avoir envie de valoriser des choses, d'archiver ce qui se passe, enfin, collecter pour les personnes, en tout cas, ce fameux chantier. Et en même temps, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui te touchent, qui te mettent en colère, avec des choses que tu as envie de dénoncer, quoi. Et donc ça en fait partie, par exemple.
Ouais, là c'est un peu le magma dans lequel je suis depuis plusieurs mois, mais c'est justement, je suis un peu sur, je navigue entre le fait que pour moi c'est aussi une posture, un rapport de force qui est à tenir et à continuer face du coup à l'État, en fait, brésilien, qui réellement n'a pas une politique publique. Du coup, sur du long terme, pour les personnes qui ne peuvent pas se payer ou se loger. Mais par contre, à côté de ça, justement, le rapport de force aussi, il s'articule aussi à l'échelle du chantier. Et que moi, en fait, ce qui me semble hyper urgent à dénoncer, c'est le racisme qui, en fait, s'opère aussi sur les questions liées au logement. Et en fait, moi, je m'insère dans une... Du coup, je suis aussi en co-tutelle au Brésil. Enfin, j'ai un labo de recherche avec qui je travaille au Brésil et qui ont une ligne de recherche qui, quand même, s'appuie sur quelque chose de très binaire, on va dire, qui, en fait, oublie la question raciale.
Avant de développer cette question raciale, t'avais une musique qui nous faisait... qui t'avais sélectionné une musique qui parlait un peu de ça et que tu nous... Parce que j'ai l'impression que
c'est un gros sujet.
Non, mais oui, parce que c'est ce que je veux dénoncer. Je pense que ce que je voulais dire, c'est qu'il y a notamment le... En fait, je veux pas non plus dévaloriser une pratique qui, pour moi, politiquement, est juste et s'est construite par la lutte. Mais en même temps, justement, la question du travail non rémunéré, en fait, sur le chantier, pour moi, c'est une autre forme d'exploitation du corps noir. Et dans le marché du travail, il est constamment exploité, en fait. Donc oui, on peut mettre une dame en plus, Elsa Soares, du coup, A Carne. Du coup, la viande, son titre, c'est un peu la viande la moins chère du marché, c'est la viande noire.
A carne mais barata no mercado é a carne negra. A carne mais barata no mercado é a carne negra. A carne mais barata no mercado é a carne negra. A carne mais barata no mercado é a carne negra.
Só cego não vê.
A carne mais barata do mercado.
train de cuisiner Tara sur son sujet de thèse. Donc si tu viens de débarquer, sache qu'on est à un petit plongeon, on est arrivé à une certaine profondeur. Mais je pense que tu peux raccrocher les wagons facilement.
T'avais une question toi, Roberta ?
Oui, moi, Roberta, je me demandais si c'était à quel niveau tu situais ce racisme. Est-ce qu'il était justement, parce que là tu parlais à la fois du logement, à la fois de l'exploitation dans le travail, et du coup si c'était beaucoup du racisme institutionnel ou si, et ou si c'était en plus du racisme visible dans la rue, entre les gens. Et si tu peux nous parler un peu de la population du Brésil, qui est quand même aussi un pays qui a subi la colonisation aussi, pour qu'on puisse se le représenter un petit peu... la population de là-bas, globale.
Quel coin, quoi.
Alors, peut-être que je peux lancer ce qu'ils nomment au Brésil aussi le mythe de la démocratie raciale. Donc, quand il y a eu la Constitution, à la sortie de la dictature, donc la dictature a pris fin, que je sois, j'ai toujours 85. Du coup, ce mythe dont on parle, il y a un mythe qui construit une égalité
entre les colons et les colonisés.
Alors ce qui est un peu compliqué avec l'histoire du Brésil, c'est qu'il y a eu beaucoup d'immigration, de vagues d'immigration successives, notamment au XXe. Il y a eu de l'immigration surtout allemande, italienne. Mais du coup, sinon, on va dire que pendant 4 siècles quasiment, avant ça, il y a eu la traite transatlantique. Et ce qui fait que, en fait... on va dire toute la côte au Brésil où il y a Recife, Salvador, Rio, ça a été du coup des gros points d'arrivée, et ce qui fait que bah, du coup il y a une grosse population afrodescendante, mais il y a aussi du coup une population indigène qui a été quand même largement exterminée, mais il y a encore il y a quand même... On va dire que ces personnes-là, par exemple, ces communautés-là ont souvent réussi à avoir des statuts, notamment pour des terres indigènes. Mais du coup, on va dire que le racisme au Brésil, ce qui est compliqué, c'est justement qu'il n'est pas nommé. C'est vraiment un racisme ordinaire. Et ce qui est compliqué, même moi, avec qui je travaille, du coup, dans une sphère intellectuelle politisée, on va dire, du coup, les chercheurs, chercheuses, architectes avec qui je travaille, c'est très compliqué de parler des questions raciales, parce qu'elles viennent beaucoup remettre en question les institutions. Mmh. Et par exemple, tout le modèle universitaire, il a été complètement pris du modèle français. Mmh. Et par exemple, il y a quelques années, il y a eu un gros débat autour des quotas, du coup, pour des quotas pour les personnes racisées pour pouvoir rentrer à l'université publique. Et par exemple, je peux citer un travail d'une personne qui a soutenu du coup une thèse récemment et qui travaille sur les questions du ménage. Et elle a fait le choix dans son université de passer d'étudiante noire racisée mettre une tenue de travailleuse en fait, et elle a commencé à faire le ménage, et en fait tous les rapports sociaux en fait il y a quelque chose de très violent qui s'organise au quotidien en fait, si tu regardes qui est au service de qui. Voilà, donc c'est mais en fait je pense que aussi au Brésil il y a eu du travail de quelques économistes et philosophes et tous les mouvements en fait noirs des années déjà 60-70. Mais en fait c'est très compliqué vu que ces personnes-là n'ont pas accès à l'université ou c'est très limité. Et ben en fait, c'est un savoir qui n'est pas du tout... Enfin, ou que par la lutte. Mais voilà, c'est très facile de nier qu'il se passe des choses. Hein, donc non, c'est un débat qui... Moi, en tout cas, aussi, je fais des vrais choix là-dessus, même au Brésil.
Est-ce que toi, tu as rencontré, non, des féministes intersectionnelles noires qui t'ont parlé de tout ça, il me semble.
Tu penses auquel, toi?
Par le biais de la capoeira on a déjà eu des petites discussions là-dessus. Et c'est intéressant d'avoir, je trouve, ce point de vue-là aussi. Oui. Peut-être que c'est les à côté de ta thèse, ça.
Oui, carrément. Bah, en tout cas, dans mon travail aussi, comment je travaille, je crois que je reste très alerte à ce qui se passe en termes de mouvance politique, culturelle même. Que ce soit par la musique, mais aussi par des formes de se regrouper. Enfin, moi, je pratique la capoeira et du coup, j'ai quand même beaucoup baigné dans un environnement qui nomme la résistance culturelle aussi et qui dénonce le gouvernement de Bolsonaro et qu'au-delà d'être féministe et intersectionnelle, j'ai l'impression qu'il y a aussi cette question culturelle, en fait, qui est très forte. Enfin, la capoeira, par exemple, elle a été criminalisée à plein de moments de l'histoire. Et du coup, elle a dû, en quelque sorte, prendre une forme plus militaire, quasiment, à un moment, pour pouvoir continuer d'exister. Et voilà, donc c'est compliqué, parce que c'est tout ce qu'on projette comme étant exotique, et en fait, c'est notamment juste de l'ancestralité, en fait, qui essaye de rester en vie.
Mais en tout cas, je trouve hyper intéressant la question coloniale dans toute cette thématique de ta thèse, mais aussi d'être une universitaire blanche qui vient au Brésil faire une thèse, mais aussi de comment t'es rentrée comme dans ces questions politiques aussi du Brésil par la capoeira, par la musique, par tous les à côté. Mmh. Et moi, je sais qu'en ce moment, ça me questionne beaucoup. Qu'est-ce qu'on pourrait s'empêcher des fois dans les milieux militants pour une pureté éthique et de tout ce qu'on pourrait parler d'appropriation culturelle, par exemple. Et je trouve intéressant de voir, mine de rien, tout ce que tu rencontres comme thématique politique en t'ayant initié dans ces espaces de la capoeira. Et de... toute cette dialectique, je trouve, entre l'éthique pure et à un moment donné, comment on rencontre aussi la matière et on en parle, et la question de la posture. Quoi.
Ça parle beaucoup de légitimité. Je pense que c'est encore ça, c'est de la colère et en fait aussi une envie de pouvoir, moi, dire les choses, de raconter autrement ce qui se passe. Mais c'est étrange, parce que quand je suis au Brésil, j'ai pas l'impression d'être si extérieure. Et en même temps, toutes mes conditions de recherche me renvoient à être extérieure, justement. Et moi, un peu un fil que j'ai commencé, du coup, là, cette année, ça a été de notamment venir questionner ma blancheur, au même titre qu'on peut nommer de la noirceur. Mais pas tant en lien avec ma couleur de peau, qui est, oui, blanche, mais c'est plus par rapport à, du coup, aussi ce que j'ai nommé dans ma recherche, le pouvoir du regard. En fait... comment est-ce qu'on regarde les choses et comment... Enfin, juste l'outil de la description, par exemple, dans les sciences sociales, en fait, il détermine un regard. Et du coup, moi, il y a un peu cette envie de déjà vraiment rendre compte de comment est produit ce savoir. Enfin, du coup, moi, de relater toutes ces relations de travail et aussi, du coup, tous ces efforts et aller-retour et aussi gros moments de doute, quoi, sur qu'est-ce que je fous là Je crois que je me sens encore de tenir ça, même après, du coup, là, ça fait quand même bientôt 4 ans que je suis là-dessus, quand même à temps plein. Mais aussi parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'il y a peu d'espaces comme ça qui sont défendus, notamment au regard de la recherche en France, en architecture. Et que moi, en fait, parler de l'architecture et de l'histoire de telle archi, encore un mec, j'ai plus envie qu'on parle de ça, et du coup, j'ai envie d'occuper cet espace-là. Et du coup, mon travail, pour moi, mon gros travail, il est avant tout du coup le relationnel que je construis avec les personnes avec qui je travaille sur le terrain. Du coup, et là, c'est pouvoir parler de racisme en fait et de nommer le racisme et moi aussi d'accepter où est-ce qu'ils me situent eux avant même que je me présente et tout ce qui se permet de ne pas dire ou de ne pas nommer. Et donc c'est une construction collective. Et je me dis moi la seule ligne et c'est un peu le fil rouge là que je commence à tisser au long de la thèse, c'est devenir vraiment, moi, parler de ma blancheur pour pouvoir aussi adresser ces questions-là aux personnes blanches, en tout cas qui ont les privilèges de blanc. Et que voilà, j'espère que ça peut quand même toucher un peu l'ego surdimensionné des architectes français. Mais on peut peut-être être un petit son là, parce que je pensais à le son de Gaetano Veloso et Gilberto Gil, du coup, et qui date de 93, ma date de naissance. Et du coup, elle parle, elle dit ça de façon assez simple, et il dit... tu deviens noir d'être si pauvre en fait. Voilà, il dénonce ça, il parle de Haïti.
Quando você for convidado pra subir no adro da Fundação Casa de Jorge Amado, pra ver do alto a fila de soldados, quase todos pretos, dando porrada na nuca de malandros pretos, de ladrões mulatos e outros quase brancos, tratados como pretos, só pra mostrar aos outros quase pretos, que são quase todos pretos, e aos quase brancos pobres como pretos. Como é que pretos, pobres e mulatos, e quase brancos, quase pretos, de tão pobres são tratados? E não importa se olhos do mundo inteiro possam estar por um momento voltados para o largo, onde os escravos eram castigados
E hoje um batuque com a pureza de meninos uniformizados de escola secundária em dia de parada. E a grandeza épica de um povo em formação nos atrai, nos deslumbra e estimula. Não importa nada, nem o traço do sobrado, nem a lente do fantástico, nem o disco de Paul Simon. Ninguém, ninguém é cidadão se você for ver a festa do Pelô.
Les classes,
les classes.
Les classes. C'est carrément la classe.
C'est la classe et c'est l'éclate d'être en thèse.
Quand même, je suis assez passionnée. Déjà, ce qui fait que j'ai de l'endurance face à mon sujet.
Et oui, ça joue.
Ça joue. Parce que c'est quand même très solitaire comme aventure. Non, mais ouais, en fait, déjà, moi, ça m'a pris du temps. J'ai pas du tout fait une formation universitaire qui amène à faire de la recherche, en principe. C'est très nouveau en architecture. Et moi, j'ai fait une mention recherche par le projet, donc c'est encore autre chose. Tu produis du projet, tu fais du projet et tu fais de la recherche par le projet. Il y a un truc très itératif, créatif. Donc quand je me suis retrouvée face à des livres et de la théorie, dont j'en avais déjà quand même... Enfin, j'avais déjà fait un petit mémoire, mais sauf que c'est aussi s'approprier en fait tout l'environnement de la recherche. Et non, c'est très mal vécu de mon côté. Très très mal vécu. Franchement... Parce qu'il y a énormément d'agisme, c'est principalement... Enfin, c'est une manière, en fait, de se rendre spécialiste d'une thématique et ensuite d'occuper des espaces. Enfin, voilà, la recherche, c'est un CV, c'est un titre. Donc moi, c'est vrai que j'ai été assez claire avec mes directrices dès le début en disant « Moi, je ne vais pas faire de carrière universitaire. »
Tu ne seras pas docteur Tara.
Non.
Ah, c'est classe pour toi.
Je pourrais même le mettre sur ma carte d'identité, vous rendez compte. Française. Tintin. Non, je pense que déjà, j'ai du mal à me revendiquer architecte, mais alors docteur en architecture, encore moins. Donc je pense que moi, les grosses contradictions que j'ai eues, c'était les attendus. En fait, qu'est-ce qu'on attend de toi en tant que... En plus, la thèse, c'est quand même un exercice de formation à la recherche. Donc en fait, on n'est même pas... Enfin, on peut faire ça pendant 5-10 ans. En fait, on ne reconnaîtra jamais comme quelqu'un qui fait vraiment de la recherche encore, quoi. Bah, parce qu'en fait, à la fin, tu présentes un travail qui est évalué par tes pairs, donc par un jury, et c'est eux qui vont dire « Oui, vous pouvez être chercheuse. » Non.
Donc, et toi, tu envisageais peut-être de ne pas forcément aller au bout, de ne pas forcément soutenir. Si je me...
Ouais.
C'est un truc que tu envisages, et donc ça peut paraître « Ah bon, elle ne va pas au bout du tunnel, en fait. » Mais... Et en deux mots, pourquoi c'est un truc qui est envisageable?
Oui. En fait, c'est plus si ce que je propose, moi, en termes de forme, notamment, ne répond pas à la science comme elle est dictée, bah, je choisirais de publier sans présenter ça comme une thèse, en fait. Je me suis un peu réconciliée avec, justement, qu'est-ce que c'est faire de la recherche, et c'est aussi pour ça que j'avais... Enfin, voilà, j'ai dit de me présenter comme chercheuse activiste, parce qu'en fait, pour moi... J'ai envie de pouvoir dénoncer des choses et en fait avoir une posture politique. Et souvent, c'est là où on t'interdit. Enfin, c'est des zones grises. Et alors que du coup, il y a quand même... Enfin, il y a un sacré pouvoir qui est concentré, donc du politique, quoi. Et donc moi, c'est encore dur. C'est des choses que j'arrive pas tant à nommer, du coup, avec mon environnement de recherche. Mais du coup, en étant ici dans le coin... Bah voilà, je crois que ma posture de personne qui a envie de pouvoir s'exprimer librement a pris le dessus cette année.
Libération.
Quel suspense. Tu repars quand et tu vas faire quoi? C'est quoi l'objectif là de ta prochaine immersion?
Ouais. Eh ben je repars vendredi prochain. Je reste un mois, donc je rentre mi-mai à peu près, et pendant ce mois-là, donc là normalement ça va être un temps plus sur le chantier avec les familles. À essayer de décider de quelle forme collective on veut choisir et écrire, enfin pour mettre en narration le chantier, enfin,
ou dessiner,
ouais, ça aurait plein de formes de toute façon. J'ai beaucoup questionné la forme des langages, mais ça peut être autant graphique, écrite, enfin de la poésie, il y aura peut-être du théâtre aussi, enfin voilà, on sait un peu essayer de trouver les formes qui parlent et aussi du coup qu'est-ce qui est leur... Enfin, comment ils ont envie de s'adresser et comment ils ont envie de se raconter à eux-mêmes ces histoires. Donc ça va être ça. Et puis notamment aussi avec l'équipe d'appui technique, reconstruire une chronologie plus détaillée du chantier depuis 4 ans. Donc là, plutôt la chronologie technique. Donc,
voilà. Et tu vas nous ramener... Parce que du coup, l'idée, c'est quand même qu'on aimerait beaucoup t'interroger à ton retour. Mm. Tu ramèneras du son,
oui.
des ambiances sonores, des...
Oui. Là, je me suis un peu formée à la création sonore. Et puis j'ai des super alliés. Donc l'idée, c'est j'aimerais bien faire une sorte de portrait de Sao Paulo sonore, mais notamment à partir des travailleurs travailleuses. Enfin, voilà, de tous ces emplois qui parce que pour moi Sao Paulo c'est tellement multiple et j'aimerais bien retranscrire toutes ces facettes et c'est très bruyant. Mmh. Voilà. Donc, je pense que les sonorités, en tout cas, ça peut apporter plein d'imaginaires et de nouveaux imaginaires de Sao Paulo. Donc oui, je ramènerai ça.
Trop bien.
On nous fera un voyage.
Je propose qu'on laisse en suspens toutes nos autres questions, mes petits coins-coins.
Oui.
On espère pouvoir donc t'interroger à ton retour, peut-être même juste après un truc à chaud, vu que le sujet est posé, on sait de quoi on parle, etc. On pourrait être directement sur du sensoriel ou un truc à chaud dans comment tu réatterris là. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose avant une petite chanson de la fin?
C'est parti alors. Opinion, une musique qui a été écrite en 1964, début de la dictature.
Eh ben merci Tara d'avoir répondu à nos questions. J'espère que auditeurs et auditrices, vous avez un peu compris ce qu'a raconté Tara.
J'espère aussi.
Ouais. Moi en tout cas j'ai appris plein de choses. Eh bien à bientôt.
Sopa e deixa andar.